Bonjour à tous, bienvenue sur le 88.8 pour Mod Coltrane. Toute la semaine, une programmation et des émissions spéciales à l'occasion de deux concerts du Raphaël Imbert Project à la Station Alexandre et de la sortie du disque Back Coltrane. Le Raphaël Imbert Project, à savoir son quartet jazz, le quatuor Manfred et l'organiste André Rossi seront ce soir vendredi et demain samedi 1er mars à partir de 21h à la Station Alexandre pour interpréter donc live le répertoire du disque Back Coltrane. À cette occasion, Radio Grenouille rebondit et vous propose donc une programmation spéciale. C'est Tony à la technique et Stéphane au micro. Aujourd'hui en direct avec Guy Reinhardt dans le studio. Bonjour Guy.
Bonjour.
Et avec Franck Medioni, invité par la compagnie Nine Spirit. Bonjour Franck.
Bonjour.
À l'occasion de la sortie, ça tombe bien avec cette actualité, de John Coltrane, 80 musiciens de jazz témoignent aux éditions Actes Sud. Vous avez compilé donc, ou tu as compilé Franck, 80 entretiens de musiciens autour de John Coltrane.
On a célébré en juillet dernier, le 17 juillet dernier, très exactement, le 40e anniversaire de la mort de John Coltrane. Donc j'ai eu l'idée de demander à différents musiciens quel regard ils portaient sur Coltrane, quel rapport ils avaient eu à Coltrane. Donc j'ai demandé aussi bien à des musiciens qui ont joué avec lui, que ce soit McCoy Tyner ou Elvin Jones du quartet historique ou Archie Shepp ou bien John Chikai, Johnny Griffin. J'ai demandé aussi, ce qui est intéressant, à d'autres saxophonistes, ceux qui ont subi et subi, ce n'est pas une péjoration, qui ont eu l'influence de Coltrane. Je pense par exemple à Dave Lindman ou Joe Lovano. Et plus loin encore dans la filiation, j'ai demandé à d'autres musiciens, jeunes musiciens, notamment Raphaël Imbert, à qui j'ai demandé quel pouvait être. J'ai demandé d'écrire un texte sur le rapport que Coltrane avait eu au spirituel. Tout le monde ne pouvait pas y figurer. Je sais que j'aurais été très content que Wayne Shorter soit dans ce livre. C'est pas faute d'avoir essayé. Il y a Sonny Rollins qui donne un témoignage très fort de l'amitié qu'il avait avec Coltrane. Il dit qu'il avait, deux amis parmi les musiciens de jazz. C'est Monk et Coltrane. Et pour lui, les amis, c'est qui? C'était ceux à qui il pouvait emprunter de l'argent. Et ce qu'il a fait et pour Monk et pour Coltrane.
Il les choisissait pas au hasard.
Oui, peut-être.
Oui, alors c'est effectivement à l'interview de Sonny Rollins, puisqu'on y vient, je vais venir peut-être directement à ce qui est mon intérêt primordial dans ce livre, puisque vous nous présentez ce livre sans tirer de synthèse, c'est-à-dire vous nous livrez la matière brute et c'est à nous, finalement, en fonction de ce qu'on est.
Ce sont vraiment des propositions, c'est-à-dire que c'est une mosaïque. C'est comme un portrait comme ça, polyphonique. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une série de témoignages que je trouve souvent d'une grande sincérité, d'une grande acuité par rapport à l'homme et au musicien qu'était Coltrane. Et en lisant tous ces témoignages, en piochant par-ci par-là, on peut, comme ça, se forme en filigrane un portrait qui, je pense, est assez juste du musicien et de l'homme. Donc après, c'est à chacun de se créer son propre, dans ce livre labyrinthe, de se faire sa propre lecture personnelle. Oui.
Mais il y a quand même quelque chose qui est universel et qui ressort systématiquement de tous les entretiens, pratiquement, au moins de tous les gens qui l'ont connu, c'est la gentillesse de Coltrane.
Alors, l'homme Coltrane, ce qui ressort, c'est effectivement la grande gentillesse, une grande douceur. Mmh. Une grande générosité, hein. On ne le dit pas parce qu'il s'en est pas targué. Il a gagné, je pense, beaucoup d'argent. Il a aidé beaucoup de musiciens qui étaient dans le besoin. Donc ça, oui, c'est vraiment un fondamental, la grande gentillesse, la grande douceur de l'homme. Et puis après, bon, pour ce qui est du musicien, ce qui ressort, c'est le musicien qui vit par et pour la musique, qui est vraiment habité, qui ne cesse de jouer, c'est-à-dire que il joue, il peut prendre un chorus qui va durer un quart d'heure, et après avoir joué, le concert terminé, qu'est-ce qu'il fait ? Il joue encore. Donc c'est cette passion, au sens presque chrétien fort du terme, cette passion pour la musique qui est très forte. Et ça ressort beaucoup dans les témoignages que j'ai réunis. Ouais.
Bon, je vous propose d'illustrer cette passion et ce dévouement à la musique. Et également aussi le succès de John Coltrane avec un premier extrait, My Favorite Things. Ça a été son grand tube, si on veut.
C'est un thème qu'il a joué encore et encore. Oui.
Sans doute son thème le plus connu, qui est aussi un standard d'ailleurs.
Thank you.
Favorite Things, le thème que Coltrane a sans doute le plus souvent joué. Il y a une trentaine de versions ont été enregistrées, c'est ça, là, ça discute entre spécialistes.
Il y a une trentaine, peut-être 30, 35, 36 à peu près. Mais...
Oui, toujours.
Donc, version non pas enregistrée, mais version jouée en concert et conservée donc, de façon parfois officielle par les radios, de façon parfois
officieuse
et religieuse par les amateurs de jazz qui donc, nous transmettent toutes ces versions. Alors, ces versions sont toutes extrêmement différentes. Et je voudrais juste citer quand même la question que posait Michel Delorme à Coltrane, qui était, est-ce que tu aurais pu jouer ce morceau au ténor ? Et la réponse de Coltrane a été typique de Coltrane, un seul mot, non. Puisque ce morceau a toujours été joué au soprano.
C'est comme ça, en 1960, qu'il s'initie au soprano, hein, qu'il enregistre pour la première fois au soprano. Ouais.
Au soprano et à la suite de Sidney Bechet.
À la suite de Sidney Bechet et peut-être aussi de Steve Lacy. Steve Lacy, dans le livre... dit qu'il aurait donné l'idée à Coltrane de jouer du soprano, qui, il faut le dire, est la même tonalité, le si bémol, que le ténor. Donc quand on joue du ténor, on peut jouer assez facilement du soprano.
Alors dans les adjectifs dont vous avez qualifié Coltrane tout à l'heure, gentil, aimable, charitable, presque généreux, etc., vous en avez oublié un qui, à mon avis, est tout à fait important, c'est l'humilité.
Oui, c'est juste. Hein. Il ne s'est jamais vraiment mis en avant, quelqu'un d'une grande simplicité, d'une grande humilité. Oui.
Alors pour ça, on peut citer l'anecdote qui est dans le livre, effectivement, où Jeff Gilson, à l'entracte, donc, puisqu'il jouait en première partie à Antibes en 1965, et à l'entracte, Coltrane vient le voir et lui dit « Ce que tu as joué était fantastique, mais moi, qu'est-ce que je peux faire maintenant de mieux que ce que tu as fait ?» Et Jeff Gilson lui dit « Est-ce que tu peux nous jouer A Love Supreme ?» Et Coltrane a dit « D'accord ». Et il a joué A Love Supreme, qui est la seule version intégrale de Love Supreme, la première version intégrale en public qu'on ait, puisqu'il le rejouera à Comblain-la-Tour, donc quelques jours plus tard. Et après, c'est fini, il ne le jouera jamais plus, on ne l'aura jamais plus en enregistrement.
C'est un document exceptionnel, hein. Enregistré par Radio France, par André Francis, on entend la voix d'André Francis sur l'enregistrement qu'Impulse a sorti il y a quelques années. Oui.
Alors évidemment, avec le mot humilité vient immédiatement le côté religieux de Coltrane. On ne peut pas y échapper.
On ne peut pas y échapper. Je crois que dans l'histoire de cette musique, la musique noire américaine, qui est aussi une musique qui a ses fondements dans le religieux, n'oublions pas le gospel, n'oublions pas l'église. Et Coltrane a des deux côtés de sa famille, de son père comme de sa mère, des liens très forts avec l'église baptiste. Et l'acte musical est pour Coltrane un acte religieux, et j'irais même, pour aller un peu plus loin, un acte mystique. S'il y a des musiciens mystiques dans cette musique, c'est Coltrane, c'est aussi Albert Ayler, hein, que Coltrane a connu, qu'il a même soutenu, puisque c'est grâce à Coltrane que Albert Ayler a pu enregistrer pour le label Impulse. Et effectivement, le spirituel, c'est le moteur principal du mouvement créatif de Coltrane. Ça, c'est vraiment essentiel. L'expression de cette quête, de cette foi, de cette ferveur, la plus belle, c'est Love Supreme, hein, qui est une prière, hein, un titre qui s'appelle Psaume, c'est donc vraiment un psaume, qui est une prière, et Coltrane dit avoir vu Dieu dans le texte de présentation de ce disque, il dit avoir vu Dieu, donc c'est vraiment essentiel. Pour comprendre Coltrane, parce que pour certains, c'est une foi un peu de pacotille, ce n'est pas sérieux, ce sont les années 60, donc puisqu'il n'y avait plus la drogue ou LSD, ou puisqu'il y avait et la drogue et le LSD, il y avait aussi Dieu, ou tous les délires mystiques. Non, non, chez Coltrane, c'est pas un délire, ce n'est pas quelque chose de pacotille, c'est pas un habit, c'est pas pour bien habiller sa musique ou pour faire joli, c'est quelque chose qui est de l'ordre du métaphysique et de l'essence même d'un être, hein. C'est quelque chose de très fort.
Ce mysticisme et son expression à travers sa musique, à John Coltrane, c'est sans doute quelque chose qui, autant peut-être que la musique elle-même, a fondé son influence, j'ai l'impression. Et en même temps, c'est quelque chose qui le... J'ai envie de dire que presque, dans le jazz notamment, presque tout le monde est devenu coltranien à sa suite. Et en même temps, cette expérience mystique a quelque chose de complètement unique qu'on retrouve très peu. C'est vrai qu'il y a des contemporains comme Sanders ou Ehler qui sont très proches de cette, dans la démarche, en tout cas de l'expression du sentiment religieux, spirituel, etc. Mais après ça, on a l'impression qu'il a en même temps ouvert une voie et en même temps peut-être posé des limites.
Oui, c'est très juste, parce qu'il a ouvert une voie... Parce qu'il a très fortement influencé 40 ans de musique de jazz, c'est-à-dire depuis les années 60. C'est un fait, le jazz est coltranien ou post-coltranien. Je le dis souvent, j'entends moi Coltrane partout, en termes d'énergie, en termes d'harmonie. Et puis effectivement, c'est une influence qui est spirituelle. Après, l'influence ne peut pas être mystique parce que c'est quelque chose qui est une expérience unique, une expérience qui est individuelle, vraiment. Mais pour ce qui est de l'influence musicale et spirituelle, elle est énorme, énorme.
Et elle est surtout universelle et universaliste, je dirais, parce qu'elle n'est pas liée à une religion. On ne peut pas dire que Coltrane était quoi que ce soit, parce que Coltrane s'est intéressé en plus très tôt, ça commence dès les années 50, à une époque où il a failli jouer dans l'orchestre de Senra. À cette époque-là, on sait qu'il lisait des livres déjà religieux, qu'il s'est intéressé au soufisme, qu'il s'est intéressé aux religions indiennes. Vu qu'il a
dans donné... le livre, effectivement, c'est Sonny Rollins hein, qui dit lui aussi, bon, qui est aujourd'hui bouddhiste, qui dit qu'il partageait avec Coltrane ses questionnements sur les philosophies orientales, et il se prêtait des livres. Hein, et bon, il était aussi, on peut le dire, marqué par la musique indienne. Là, c'est la musique modale dans les années 60. Et son fils a pour prénom Ravi, en référence, on le sait, à Ravi Shankar. Hein.
Ravi Shankar, qu'il a rencontré, avec lequel il a probablement discuté très, très certainement, parce que ce qu'on se rappelle, c'est qu'en fait, Coltrane n'était pas quelqu'un de renfermé. C'était quelqu'un qui posait toujours des questions. Tous les musiciens avec lesquels il a joué disent tous qu'il posait constamment des questions.
C'est vrai que vous touchez un point sensible de la personnalité de Coltrane, parce qu'on le voit très placide. Et même quand on voit les images, les photos de Coltrane, on le voit très intériorisé, concentré dans l'intériorité, concentré sur sa musique. Et on lit les entretiens qui sont très rares de Coltrane. On l'imagine très placide et presque dans le silence, alors que je pense qu'il était dans un questionnement permanent, effectivement, hein, dans un questionnement et dans un mouvement permanent musical et intellectuel, quoi, spirituel.
Pendant ces entretiens, il y a quelque chose que je voudrais évoquer pour revenir au spirituel. Pour les musiciens américains, c'est quelque chose de, j'ai envie de dire, de tout à fait naturel. Donc cette influence spirituelle de Coltrane, évidemment, est un fait. Elle renforce peut-être la prégnance du spirituel dans la musique de jazz. Elle a peut-être ouvert aussi des choses de ce côté-là. Mais je dirais que c'est tout à fait fréquent dans les liner notes de disques de musiciens américains de lire « Merci papa, merci maman et merci à Dieu de m'avoir donné ». Enfin, c'est même plus que fréquent, quoi. C'est constant. Donc, et par contre, est-ce que les musiciens européens, peut-être, ont une certaine distance vis-à-vis de ça? Est-ce que tout au long de ces entretiens, il y a une différence de ce côté-là, Franck Méliot?
C'est une question de culture, je pense, parce que aux États-Unis, le spirituel ou le religieux, en tout cas, fait partie intégrante de la vie. Il ne faut pas oublier que sur le de la vie publique. Et sur le billet américain, il y a In God We Trust. Hein. En France, il y a quand même, la séparation entre l'Église et l'État. C'est très culturel, cette dichotomie, ce qui fait que les musiciens européens ont cette culture n'ont pas accès, comme les musiciens américains et comme les musiciens noirs américains en particulier, ce rapport aux religieux.
Le rapport aux religieux, en tout cas, qui conditionne pas l'accès à la musique de Coltrane, puisque, comme vous le signaliez, Guy, elle est universelle ou universaliste. La preuve avec ces 80 musiciens de jazz, différents horizons qui témoignent. On va écouter un extrait de Crescent, qui est un disque, peut-être un des plus beaux disques, s'il faut utiliser ce type d'adjectif.
C'est vrai que moi, c'est un de mes disques préférés de Coltrane. Je ne suis pas le seul, hein, ce n'est pas original. Je vois parmi les témoignages là, dans le livre, chez Actes Sud, il y a beaucoup de musiciens qui considèrent Crescent comme peut-être un des meilleurs, sinon le meilleur disque de Coltrane. Pourquoi ? C'est le moment où le quartet, qui s'est créé en 60 et qui va s'achever en 1965, Crescent c'est 64, est à son apogée. Là, individuellement, collectivement et dans l'expression musicale, on atteint vraiment un sommet. Hein.
Crescent, on écoute Wise One. Thank you. Wise One est extrait de l'album Crescent 1964, le sommet du quartet classique, entre guillemets, de John Coltrane. Nous sommes toujours en direct avec Irène Hart et Franck Medioni pour parler de cet ouvrage sorti chez Actes Sud. John Coltrane, 80 musiciens de jazz témoignent. Franck, parmi ces témoignages, peut-être même au-delà de leur contenu, mais au niveau de la rencontre aussi, est-ce qu'il y en a qui... toi personnellement, tout personnellement, t'ont particulièrement marqué?
Oui, il y a des rencontres fortes. Je sais que quand on rencontre McCoy Tyner, donc pianiste du quartet de Coltrane, et quand on évoque Coltrane, même si pour McCoy c'est la 300e fois, il y a toujours beaucoup d'émotions, étant donné l'importance qu'il a eu pour lui. Donc cette émotion, il la transmet et c'est quelque chose de vraiment de très fort. Je pense aussi à un autre témoignage, celui du batteur Daniel Humer, qui est un bonhomme, pas rustre, mais qui est quelqu'un de
assez direct,
comme ça, et qui m'a dit avec vraiment beaucoup d'émotion qu'il a pleuré une fois, peut-être une seule fois dans sa vie à un concert. C'était un concert, le concert de Coltrane avec Miles. Ça, c'était vraiment très, très touchant, très fort. Hein, ouais. Et puis, l'entretien aussi avec Alice Coltrane, l'épouse, la veuve de Coltrane, c'était aussi fort. Ouais.
Moi, il y a un entretien qui m'a particulièrement marqué, qui est discordant un peu dans le concert, l'ensemble. Évidemment, tu t'en doutes, celui de Jean-Louis Chotant, qui... de manière assez provocante aussi, hein, volontairement, on le devine, à travers la formulation de son argumentation, dit, lui, quasiment, il est anti-Coltrane. Quoi.
Il est pas anti-Coltrane parce qu'il est saxophoniste et il sait très bien quel saxophoniste c'est. Bon, effectivement, il y a beaucoup de provocations chez Chotant. Ce qui l'agace beaucoup, c'est ce qu'il appelle les bondieuseries. C'est-à-dire le côté mystique, spirituel qu'on trouve dans la musique de Coltrane. Mais on l'a dit auparavant, on ne peut pas faire l'économie de cette question-là quand on aborde la musique de Coltrane. La musique de Coltrane, comme l'œuvre de Tolstoï, on prend tout en bloc ou on la rejette. Mais elle est religieuse, on peut être contre les bondieuseries, contre l'institution religieuse, contre certaines hypocrisies de ou des religions, et en même temps admettre, reconnaître la beauté de cette musique-là. Moi, j'aime beaucoup Jean-Sébastien Bach, je peux vous avouer que je ne suis pas croyant, comme disait Buñuel, grâce à Dieu, je suis athée, et malgré tout, j'aime beaucoup la musique de Coltrane, j'aime beaucoup la musique de Bach, et les musiques religieuses, le gospel me fait frémir, me fait vibrer.
Mais Chotant va peut-être même un peu plus loin, je vais me faire, parce que j'aime bien ça aussi, me faire un petit peu l'avocat du diable, dans le sens où il reproche ses bondieuseries, et il reproche peut-être aussi l'influence musicale que, par exemple, Raphaël Imbert souligne, de l'influence de Luther, l'influence vraiment de la musique religieuse dans ses structures, la psalmodie, on en parlait tout à l'heure, là, et certaines formes musicales, il reproche. En tout cas, selon lui, ça aurait peut-être autant fermé des portes qu'ouvert des voies.
Oui.
Est-ce que c'est quelque chose qui... Bon, c'est difficile.
C'est assez juste, parce qu'il a vraiment... il a ouvert... fenêtre, c'est énorme sur la musique de jazz, et en même temps, c'est ce qu'on appelle le coltranisme. Il a un peu fermé des portes, c'est-à-dire que il a posé des bornes. Certains sont rentrés dedans et ont été complètement par l'influence enfermés par Coltrane, et d'autres ont eu l'intelligence de s'extraire de cette influence qui est extrêmement forte. Et vous avez fait référence à Raphaël Imbert. Raphaël a l'intelligence d'être coltranien, de venir de cette musique-là, et de bien gérer cet héritage-là, parce qu'il en fait autre chose. Il va ailleurs et il crée une voix qui lui est personnelle.
Mais est-ce que plus que le côté religieux, ce côté religieux ne vient-il pas plutôt que de l'Église, ne vient-il pas plutôt de l'Afrique ? Parce que la psalmodie, la répétition, etc., ce sont quand même des caractéristiques des musiques africaines. Il ne faut pas oublier que Coltrane a sorti combien de disques où il y a des titres africains.
Dakar, notamment. Oui.
Dakar, Ogoundé.
Africa
Brass.
Africa Brass. Oui, c'est juste.
C'est quelque chose qui existe à l'époque.
Dans les musiques de trance africaines, il y a ce lien.
Je ne l'ai pas inventé, je l'ai trouvé dans le livre, parce que certains musiciens le disent effectivement, que ce côté de la transe vient plus du côté le côté africain et non pas le côté chrétien, disons, puisque lorsqu'on parle de religion,
L'un et l'autre, parce que dans les églises baptistes noires américaines, le gospel va vers la danse et va vers la transe. Donc la transe en danse, si j'ose dire.
Il est sous influence occidentale aussi. Enfin, cette église afro-américaine où résonne ces sons, ce gospel,
oui, c'est juste,
sont aussi sous influence d'une religion européenne, occidentale, on va dire.
Oui, mais c'est ce que dit Branford Marsalis dans un exemple. La plupart des musiciens européens n'ont pas été élevés dans cette façon-là. Il dit moi-même non pas tout à fait, parce qu'il est catholique et non pas baptiste ou autre, mais il dit que lorsque je sortais de la messe, j'allais retrouver les copains qui, eux, venaient de l'église baptiste, et à l'extérieur de l'église, j'entendais cette musique-là, et j'ai baigné dedans. Et justement, est-ce que la différence qu'on a entre les musiciens européens et les musiciens américains ne vient pas justement de cette imprégnation, comme on pourrait dire. Donc,
oui, c'est juste, ils ont un autre rapport à la religion et à cette culture-là. Moi, je dirais que c'est bien parce que du coup, ils creusent leur propre sillon et ils travaillent une identité musicale qui est autre, qui est la leur. Parce que j'estime qu'aujourd'hui, quand on a un musicien européen jouer la musique noire américaine, qui d'une certaine façon n'est pas la leur, même si elle est universelle, mais la jouer moins bien qu'elle a été jouée par les musiciens noirs américains il y a 40 ans, ça n'a strictement aucun intérêt. En revanche, qu'un musicien européen issu de cet héritage-là, qui est universel, trouve une autre voie, même en puisant dans sa propre culture. Je pense à Bernard Lubat, par exemple, ou à d'autres qui travaillent sur leurs propres racines culturelles et leurs propres racines musicales, là, ça fait sens.
Et puis, dans la tradition afro-américaine, disons, enfin, s'il faut parler de tradition, dans des musiciens qui s'expriment aujourd'hui, il y a, je trouve que l'influence de Coltrane se fait aussi sentir, par exemple, chez des gens comme Steve Coleman, dans la démarche, c'est-à-dire qu'on parlait de la religiosité, plutôt du mysticisme de Coltrane. C'est pas tout à fait pareil parce que ça a jamais été quelqu'un de. Il a jamais fait de prosélytisme pour une religion particulière, etc. Et je pense son influence, au-delà de l'aspect mystique même ou religieux, c'est qu'il est arrivé à dire que la musique était véritablement l'expression véritablement de l'intériorité, de l'esprit, de choses indicibles. Ça, il l'a poussé très loin. Et c'est vrai que, et en même temps, en poussant des recherches très précises musicalement, c'était aussi un érudit, un chercheur. Et c'est cette voie-là, je trouve, qui est sans doute la plus intéressante. Montrer que la musique est une expression une sorte d'image possible du monde, avec des possibilités qui sont encore à explorer, à découvrir.
C'est une phrase de Coltrane, ça. Elle me vient à l'esprit là, en t'écoutant. Et Coltrane disait ça, c'est pour ça qu'il était dans cette quête permanente, qui était freinée de l'impossible. Il a dit, en substance, les pouvoirs de la musique sont sans limite.
Il n'était jamais satisfait non plus, puisque vous parliez de quête, et il avait toujours l'impression que quelque chose lui échappait peut-être, et que son expression pouvait toujours être plus proche encore de la perfection. Guy, tu voulais peut-être intervenir avant qu'on va écouter un extrait du disque de Raphaël Humbert pour se quitter.
Mais simplement, je veux dire, le livre est extrêmement riche dans la mesure où on trouve énormément de choses. Là, au fur et à mesure où on parle, ça me revient. Ce qui est une autre caractéristique qui sépare les musiciens, peut-être plus les musiciens noirs américains des musiciens européens, c'est aussi le fait que tous se défendent pratiquement d'être rentrés dans le sillon de Coltrane, et tous affirment qu'ils ont d'abord cherché leur son, etc. Et pas uniquement les jeunes. Bon, c'est ce que dit James Carter, c'est ce que disent d'autres, un autre musicien, je ne retrouverai pas le nom tout de suite, mais même des musiciens plus âgés se défendent d'avoir été des imitateurs de Coltrane, influencés, oui, mais pas au niveau du fait qu'ils ont d'abord recherché leur propre sonorité. Et c'est quelque chose qu'on entend vraiment énormément chez les musiciens américains, peut-être plus que chez les musiciens français.
Oui, oui, c'est assez juste. Hein. Ils se défendent de ne pas avoir été dans le sillon de Coltrane. En même temps, je crois qu'ils n'ont pas vraiment eu le choix. Parce que comment ne pas l'être, hein. Quand on est un musicien de jazz aujourd'hui, on se confronte obligatoirement à l'héritage de Coltrane. Hein. Comme quand on est, j'imagine, un écrivain aujourd'hui, on se confronte à l'héritage de James Joyce. Mais on n'est pas obligé d'écrire comme James Joyce, comme on n'est pas obligé de jouer comme John Coltrane.
Et puis une dernière chose peut-être avant, je veux faire référence à l'interview de Roscoe Mitchell, qui est une petite pour moi une petite merveille, qui décrit exactement ce qu'est le jazz, c'est-à-dire qu'il était là au Sutherland Hotel à Chicago en 62-63, d'après ce qu'il dit, donc avant même qu'il ait déjà joué. Et il était là au premier set, il a écouté. Au deuxième set, on l'a poussé sur la scène. Et donc, quelqu'un lui a dit, vas-y, joue. À la fin du set, du deuxième set, il a voulu partir. Et Coltrane lui a dit, non, tu joues bien, reste là. Et il dit, ça a duré toute la nuit, etc. Et c'est là que j'ai appris mon métier. Pas dans les écoles, pas à l'université. Parce que maintenant, je rencontre plein de jeunes musiciens qui ont un diplôme et qui disent, qu'est-ce que je vais faire? Et ils ne peuvent faire qu'une seule chose, devenir enseignant de jazz, mais pas musicien.
John Coltrane, 80 musiciens de jazz, témoigne. C'est la fin de cette émission avec Franck Medioni, auteur de cet ouvrage chez Actes Sud. Merci Franck.
Merci.
De nous avoir rejoints pour cette programmation spéciale autour de John Coltrane. C'était Tony à la technique, Stéphane au micro. Nous étions également avec Guy Reinhardt. On se retrouve tout à l'heure à partir de 13h30 pour une longue après-midi d'écoutes diverses autour de la musique de John Coltrane. Nous serons notamment accompagnés également aux alentours de 14h30 par Michel Delorme, un des quelques grands spécialistes mondiaux de l'œuvre de John Coltrane qu'il a aussi rencontré à maintes reprises et approché de très près. Je vous rappelle que cette thématique mode Coltrane se déroule sur nos ondes à l'occasion de deux concerts ce soir et demain à la station Alexandre du Raphaël Imbert Project avec son quartet, le quatuor Manfred et l'organiste André Rossi autour de Back Coltrane dont nous allons écouter un extrait pour terminer cette émission. Messieurs, merci encore une fois à tous. On écoute Crescent, donc on écoutait la composition Wise One, extrait de cet album tout à l'heure. On écoute donc la composition éponyme de Crescent interprétée par le Raphaël Imbert Project, un disque sorti tout récemment, qu'on vous recommande très chaudement. On vous recommande donc aussi d'aller les voir en concert ce soir et demain. Et juste avant de l'écouter, je vous propose d'ailleurs d'éventuellement gagner des places pour les concerts de ce soir. Un numéro de téléphone à composer, le 04 95 04 95 15 04 95 04 95 15. Nous attendons vos appels tandis que nous écoutons Raphaël Imbert sur le 888.